Nous sommes à la librairie de Reyan, la librairie Regain, avec Samuel Autexier et Sadou Chapka.
Et bonjour James.
Pendant la crise sanitaire historique que nous vivons, qu'est-ce qui se passe à la librairie de Reyan pour ce reconfinement ?
Donc la librairie est fermée et on pratique le click and cueillette. Ça consiste à cliquer sur le site de la librairie pour ceux qui veulent savoir le livre, enfin choisir un livre sans avoir à se balader dans la librairie, puisque comme la porte est fermée, c'est difficile de se balader à l'intérieur. Donc on clique et ensuite on vient cueillir en venant à la porte. Donc en fait on est fermé, mais on accueille les gens qui viennent chercher un ouvrage sur la terrasse de la librairie.
Évidemment, on retrouvera tous vos liens sur le site de fréquencemistral.com. Depuis ce reconfinement, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent chercher des livres ?
Oui, il y en a eu pas mal, notamment ce dimanche, puisque les gens sont assez énervés par ce qui s'est passé, c'est-à-dire la demande était assez claire d'ouvrir les librairies, puisque ça fait 6 mois qu'on est au fait des gestes barrières, de tout ça, et que effectivement c'est un peu incompréhensible d'empêcher aux gens d'avoir accès à des livres qui leur permettent de passer du temps, vu que ceux qui restent chez eux, qui sont obligés de rester chez eux, voilà. Donc il y a une sorte d'incompréhension qui fait qu'il y a pas mal de gens qui nous ont passé des commandes en soutien et qui sont venus chercher leurs commandes qu'ils avaient prises avant. Enfin, on reste dans un... On essaie de conserver une sorte de vie normale, quoi.
Vous êtes installé à la campagne. Comment vous avez réussi à vous faire votre client ?
C'est une librairie qui existe depuis peu, en fait, qui a été fondée par Antoine, qui aujourd'hui s'occupe du bar du cours, il y a 10 ans, il y a 12 ans maintenant, en 2008. Et donc c'était une librairie qui n'existait pas, c'est-à-dire dans un petit village comme ça, et qui a effectivement gagné sa clientèle sur une dizaine d'années, c'est-à-dire les gens du village et des alentours qui aiment ce qui s'y passe. Bon, il faut dire qu'il s'y passe beaucoup de choses. Et en fait, là, malheureusement, ça s'arrête aussi, mais on reçoit sinon très souvent des gens. Donc cet été, par exemple, on a fait toutes les semaines une ouverture sur la poésie, voilà, sur les choses qu'on aime, mais aussi d'autres gens, enfin, tous les gens qui nous sollicitent, on accueille très très volontiers des auteurs pour qu'il y ait justement une possibilité d'aller au livre en passant par les bonhommes ou les bonnes femmes.
Je me retourne vers Sadou qui a développé cette librairie depuis combien d'années ?
Ça fait 7-8 ans, ça fait 7 ans je crois. Et avec beaucoup de plaisir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une clientèle régulière qui nous convient, en tout cas, puisqu'on n'a pas envie forcément d'être d'employer 6 personnes, enfin d'être un énorme truc. Donc pour faire tenir un petit magasin et payer à peu près quelqu'un, ça tourne normalement.
Vous êtes sous quelle forme ? Vous êtes une entreprise ? Vous êtes une association ? Vous êtes un collectif ?
Alors justement, donc moi j'ai été salariée pendant 5 ans, donc c'était sous la forme d'une SARL, la librairie. Et quand je l'ai reprise, donc j'ai fondé, là pour le coup, une association. Donc c'est une association, une librairie associative, d'où le fait aussi qu'on a un fonctionnement qui n'est pas réduit, qui n'est pas que sur la vente des livres, et qu'on a aussi tout un panel d'autres propositions, dont des ateliers, pas mal d'animations, qu'on a essayé de faire fonctionner. Effectivement, tout est un peu au point zéro pour ce qui est de ces volets-là. C'est une association, et depuis 26 mois, on a monté un collectif autour de l'association, parce qu'il y a malgré tout une charge de travail quotidienne importante. Donc c'était beaucoup pour une personne et même beaucoup pour deux. On est 7, du coup, à graviter autour de la librairie et à y travailler, concrètement, puisque chacun, à sa manière, est très présent, même. Les 7 personnes sont en présence vraiment régulière. Pour l'instant, c'est un fonctionnement qui est satisfaisant, avec tous ces lots aussi de questionnements. Hein. C'est chouette. Ouais.
Pour ajouter... En fait, ce fonctionnement, il a été plus ou moins décidé suite au premier confinement, par Sadou, notamment, qui se sentait pas de rester toute seule. Parce que, donc ce sont des gens qui sont proches, qui ont décidé de s'investir. Et le but, c'est de pérenniser cette forme-là, c'est-à-dire que chacun puisse apprendre des choses et tenir... Enfin, on élargit à des gens qui sont du village, pour la plupart, et qui ont envie que la librairie continue, c'est-à-dire qu'ils n'en font pas effectivement une question de salaire, etc. Donc c'est assez complexe de le faire, mais c'est un peu l'objectif qu'on s'est donné.
Samuel, tu peux nous rappeler l'adresse du site et puis là où on peut vous contacter?
Alors, l'adresse du site, elle est simple, c'est librairie-regain.fr. Donc, sur le site, on va trouver tous nos contacts, téléphone et email. Et c'est un site qu'on a fait nous-mêmes à la maison aussi, qui permet de présenter l'ensemble des bouquins qu'on a en stock sous la forme assez habituelle d'un panier. On peut cliquer pour tout ce qui est disponible et nous envoyer le message de façon automatique. Et c'est un petit site qui permet aussi une visite rayon par rayon. Là, on y tient avec pas mal de textes qui présentent les livres qu'on aime bien, de façon assez lente.
Bien évidemment, je ne partirai pas de cette librairie sans avoir eu au moins deux conseils de lecture, ou en tout cas deux coups de cœur. Premier coup de cœur.
Alors, pour ce premier coup de cœur, c'est un roman qui est sorti en 2013 qui s'appelle Faber, le destructeur, du romancier donc Tristan Garcia, et qui tire le portrait d'une génération. Un roman sur une génération, celle des enfants nés dans les années 70-80. Autant dire que ce livre parle de nous. Enfin, en tout cas, que pour moi, il raconte des choses qu'on pourrait avoir vécues. Pour donner de la chair à cette entreprise, Tristan Garcia prend soin de retracer en détail, notamment l'amitié de ses trois enfants, la formation de l'amitié de ses trois enfants qui s'appellent Madeleine, Basile et Faber. C'est une amitié ordinaire qui va petit à petit tourner autour de la figure tourmentée donc d'un des trois qui s'appelle Mehdi Faber, qui est un enfant abandonné et brillant, qui fascine ses deux camarades par son intelligence et sa vitalité. Pour illustrer le propos, Sadou va nous lire un petit extrait qui fait le portrait de ce Mehdi Faber. Tristan Garcia, Faber le Destructeur, sorti chez Gallimard en 2013 et disponible en collection Folio.
Je ne sais à peu près rien de ce que Faber a fait entre 1987 et 1988. Il disait qu'il avait été à la DAS, alors même que la DAS, j'ai vérifié, venait d'être supprimée après le vote des lois de décentralisation de 1983. Dans la foulée, les services d'aide sociale à l'enfance avaient été délégués au président des conseils généraux. Mais ici ou là, il se peut que les changements aient pris du temps. Faber a donc été placé dans une ancienne institution de Seine-et-Marne, à Melun et dans les environs. Il me semble qu'il a évoqué quelquefois des souvenirs d'internat ou de lits superposés. Et puis son mépris généralisé à l'égard du vestimentaire, de tout ce qui se porte en fait, des chapeaux ou des bijoux, était justifié de temps à autre par le fait que là-bas, il n'y avait qu'un trousseau de linge tous les 6 mois, et on s'en portait très bien. Il est certain qu'il n'a gardé aucun lien avec des éducateurs ou des instituteurs rencontrés durant cette période. Il s'est fait tout seul, et quand il nous a rencontrés, il était déjà fini. Il se battait bien. J'en déduis qu'il a fait ses armes avec d'autres orphelins, des gamins, en attente de pincements, des cas sociaux. Dès le primaire, il avait l'usage du couteau à cran d'arrêt, tout de même. Habile de ses mains, il a aussi développé d'emblée ses formidables talents d'apprentissage intellectuel. Comme je devais bientôt le constater, il assimilait toutes sortes de connaissances, en donnant l'impression qu'il les maîtrisait avant même de les découvrir. Rien ni personne ne pouvait lui donner la leçon, ou plus simplement l'aider. Lorsqu'il apprenait telle ou telle chose en notre compagnie, ses premiers mots étaient toujours « je sais ». Et il ne mentait pas, il savait. Il était déjà très beau. Et il n'est pas étonnant que cet orphelin ne le soit pas resté longtemps. « Je n'ai rien demandé », remarquait Faber. « On vient toujours me chercher. » À l'hiver 1988, Faber a posé son baluchon à quelques centaines de mètres de chez moi, dans les faubourgs de la préfecture de l'Indre-et-Loire, à la périphérie de la région centre. Il a pris ses quartiers à Mornay, chez les Gardons.
Tristan Garcia décrit, on l'a entendu, avec finesse l'ascendant, enfin, il décrit avec finesse le personnage, mais il décrit aussi, donc, très lentement, l'ascendant qui va être pris par Faber sur ses deux compagnons durant toute leur scolarité, primaire et collège. Et puis, il profite du basculement vers l'adolescence pour ouvrir l'horizon, jusque-là limité à la description de cette petite ville donc, de province imaginaire, Mornay, et à leur amitié, et il l'élargit donc aux problèmes politiques et sociaux de notre époque. un très large chapitre du roman, enfin, où le moment central est consacré aux grèves de 95, où Faber va se distinguer et conduire l'occupation du lycée jusqu'à la fin, avant d'être exclu et de retourner dans la famille, entre guillemets, de ses amis. Là, je fais un saut parce que je dévoile pas, en fait, le roman en disant tout ça, puisqu'il y a pas mal d'intrigues presque policières, et je pense que c'est effectivement le plaisir du lecteur de le découvrir. Mais je fais un saut sur le texte qui présente le livre et qui est en quatrième et qui dit ceci. Nous étions des enfants de la classe moyenne d'un pays moyen d'Occident, deux générations après une guerre gagnée, une génération après une révolution ratée. Nous n'étions ni pauvres ni riches, nous ne regrettions pas l'aristocratie, nous ne rêvions d'aucune utopie et la démocratie nous était devenue égale. Nos parents avaient travaillé, mais jamais ailleurs que dans des bureaux, des écoles, des postes, des hôpitaux, des administrations. Nos pères ne portaient ni blouse ni cravate, nos mères ni tablier ni tailleur. Nous avions été éduqués et formés par les livres, les films, les chansons, par la promesse de devenir des individus. Je crois que nous étions en droit d'attendre une vie différente. Nous avons fait des études, un peu, suffisamment, trop. Nous avons appris à respecter l'art et les artistes, à aimer entreprendre pour créer du neuf, mais aussi à rêver, à nous promener, à apprécier le temps libre, à croire que nous pourrions tous devenir des génies, méprisant la bêtise, détestant comme il se doit la dictature et l'ordre établi. Mais pour gagner de quoi vivre comme tout le monde une fois adulte, nous avons compris qu'il ne serait jamais question que de prendre la file et de travailler. À ce moment-là, c'était la crise économique et on ne trouvait plus d'emploi. Ou bien c'était du travail au rabais. Nous avons souffert la société comme une promesse deux fois déçue. Certains s'y sont faits, d'autres ne sont jamais parvenus à le supporter. Il y a eu une guerre contre tout l'univers qui leur avait laissé entreapercevoir la vraie vie, la possibilité d'être quelqu'un et qui avait sonné, après l'adolescence, la fin de la récréation des classes moyennes. On demandait aux fils et aux filles de la génération des 30 Glorieuses et de mai 68 de renoncer à l'idée illusoire qu'ils se faisaient de la liberté et de la réalisation de soi pour endosser l'uniforme invisible des personnes. Beaucoup se sont appauvris, quelques-uns sont devenus violents. La plupart se sont battus mollement afin de rentrer dans toute la foule, dans la foule plutôt, sans faire d'histoire. Ils ont tenté de sauver ce qui pouvait l'être, leur survie sociale. J'ai été de ceux qui ont choisi de baisser la tête pour pouvoir passer la porte de mon époque, mais pas Faber. Hélas, ou heureusement, et pour cette raison, il n'a pas cessé de me hanter. Comme je le disais, Tristan Garcia, dans son livre, excelle dans les descriptions, celles des enfants, des jeux, des paysages, des parents, des désirs et des luttes. Et le livre se construit avec des allers-retours entre le présent et le passé, en tentant de cerner deux questions importantes, celle de la soumission à l'ordre social et celle de la fascination pour l'autre, l'étranger. Faber. Il fait aussi le récit d'une perte, celle de l'enfance, voire de l'innocence. Pour ça, il donne tour à tour la narration aux trois principaux personnages et à la fin, à lui-même. Ce qui est assez étonnant pour ceux qui liront le livre. Tristan Garcia s'amuse visiblement à écrire ce livre. On ne peut pas évidemment dire comment le livre prend fin, mais on peut évidemment dire qu'il va surprendre. Faber le Destructeur de Tristan Garcia chez Gallimard et donc en collection folio, en poche, disponible.
Dans cette librairie, on écoute aussi de la musique, mais on vend aussi des disques, il me semble. On va faire une petite pause musicale. Qu'est-ce que tu nous proposes, Samuel ?
Alors, je vous propose un groupe qui s'appelle L'Osmose, et qui est un groupe Réia lyonnais, puisque la personne Aiko vit à Lyon et vient très régulièrement à Réan. Donc L'Osmose propose de reprendre des morceaux de classiques avec un groupe plutôt fanfare, plutôt tzigane, et c'est assez drôle. Donc le morceau choisi pour accompagner Faber s'appelle Eric Crack. Eric Crack, c'est en fait une reprise de Satie, de la gnossienne numéro 1 de Satie. Thank you.
Après la pause avec l'osmose, Rick Rack, c'était le titre. Second coup de cœur.
Donc le second coup de cœur, c'est un livre de Christian Ferrer qui s'appelle Tête d'orage. aux éditions Rue des Cascades. C'est un petit livre noir, élégant et très beau qu'on m'avait offert et que je suis venu présenter d'ailleurs à la librairie Regain en 2018 ou en 2017, je ne sais plus. Un petit livre qui se compose de 5 chapitres et qui en fait raconte des histoires autour de la notion d'anarchisme. Raconte plusieurs histoires, des histoires vraies et des réflexions politiques en fait sur ce qu'est l'anarchisme pour cet Argentin. Mon choix d'extrait s'est plutôt porté sur la partie où il réfléchit sur l'anarchisme, ce que ça peut être comme forme à la fois nouvelle et l'espoir qu'elle suscite, c'est-à-dire que l'auteur, on va le voir, pense que le communisme n'a pas réussi à trouver le chemin et qu'effectivement le chemin est plus dans la tête d'orage. Tête d'orage, c'est une référence à André Breton. Et c'était comme ça qu'il nommait les écrivains. Il aimait beaucoup. Ça dit ce que ça dit, c'est-à-dire c'est des choses imprévisibles, des choses qui peuvent bousculer beaucoup, mais qui ne sont pas effectivement un long fleuve tranquille.
À propos de l'auteur,
c'est un prof d'université, plutôt de sociologie, et qu'il a écrit plusieurs ouvrages qui sont pas traduits. Donc celui-là est, à ma connaissance, le seul qui est traduit. Il est traduit chez une petite maison d'édition. Le chemin de ce livre, c'est-à-dire qu'il est passé par un auteur espagnol, assez anarchiste aussi, et c'est ce chemin-là qui l'a amené chez cet éditeur. C'est pas anodin de voir la circulation.
À propos de l'éditeur.
Oui, l'éditeur qui s'appelle Rue des Cascades, c'est un garçon qui s'appelle Marc Thompson, qui avait participé avant à une autre aventure éditoriale des éditions Lude, qu'il avait cofondée avec Angèle Soyot. Donc, c'est des noms qui disent des choses à certains. Marc Thompson, lui, par ailleurs, il partage sa vie entre Paris, le Mexique et la Grèce. Et il s'est engagé depuis le début, c'est un de ceux à retranscrire, en fait, dans un site qui s'appelle La Voix du Jaguar, tous les textes magnifiques qui sont produits et toutes les expériences sont produites par les gens du Chiapas jusqu'à aujourd'hui. La lutte zapatiste, voilà, le ZLN. Le livre de Christian Ferrer, il s'inscrit donc dans un catalogue, en fait, puisque c'est comme ça qu'on appelle le rassemblement des livres d'un éditeur, qui publie des auteurs comme le sous-commandant Marcos, mais aussi Raoul Van Eghem, Håkan Gem, qui est un autre, Georges Lapierre, Alessi Dellumbria, Georges Bataille, Jérôme Peignot ou Thomas Ibanez. Donc c'est ce dernier, le militant anarchiste catalan exilé en France, qui a fait rencontrer Marc Thompson et Christian Ferrer. Le parcours d'un éditeur qui fait des très très beaux petits livres comme ça, qui sont très agréablement fabriqués, ce qui est important aussi, me semble-t-il. Pour revenir sur l'ouvrage, il se compose de 5 chapitres qui alternent entre des réflexions théoriques et des vues historiques sur des points historiques. Par exemple, le deuxième, c'est sur l'histoire de la Patagonie, qui est assez marrante. Il va chercher des anecdotes intéressantes pour illustrer son propos, qui tourne autour de qu'est-ce que c'est l'anarchisme. Le dernier aussi est sur la circulation de la monnaie et son lien avec le fascisme dans les pays de l'Est de l'Europe. Et étrangement, effectivement, il part d'une anecdote en s'appuyant sur un petit marché de Buenos Aires, donc en Argentine, où des gens collectionnent encore ces monnaies. Parce que ces monnaies qui ont été émises par des pays qui ont existé 6 mois deviennent rares et donc il y a des collectionneurs qui les cherchent. Et il part de ça. Enfin, c'est très intelligemment mené comme manière de faire réfléchir sur l'argent sur l'histoire de ces pays de l'Est de l'Europe qui ont participé au génocide, enfin, qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale et où l'idéologie nazie a marqué les esprits. Extrait qui pourrait être appelé le mystère insondable de la hiérarchie. Dans ce troisième chapitre, c'est ce mystère insondable de la hiérarchie que l'anarchisme bouscule. Un extrait. L'anarchisme fut-il un erratum dans le livre politique de la modernité? Le mystère de cette anomalie est-il directement proportionnel à celui de l'existence de la hiérarchie? Anomalie ou cadeau, le fait est qu'à certains moments, d'importants secteurs de la population ont confié et déposé dans l'anarchisme la clé de la compréhension du secret du pouvoir hiérarchique, tout en l'élevant en idéal de sa dissolution. Chaque époque secrète une sorte d'inconscient politique, à la fois un trou noir et un centre de gravité enfoui que le peuple n'admet pas de penser. Et les langages tentant de pénétrer cette zone sont vus comme des blasphèmes, soit virus interne, soit exogène. L'anarchisme fut une écharde, provoquant l'allergie de cette zone, l'invention moderne dont la communauté même avait confusément besoin pour pouvoir comprendre provisoirement cette énigme qu'est le pouvoir. Chaque nation, à l'instar de chaque expérience communautaire, induit des interrogations quasi insolubles pour ses membres. C'est pour ça qu'existaient dans toute cité certaines enceintes, abritant des rituels susceptibles de rendre compréhensibles pour un laps de temps malaise et énigme. Ainsi, maison de passe, église, stade de football ou salle de cinéma accueillent en leur sein l'ensemble des questions induites par le désir, la création du monde, la guerre et la rêverie. L'anarchisme recueillit les ultimes questionnements associés au pouvoir. Il fut le cratère politique d'où jaillirent des réponses radicales aux problèmes, le croisement d'idées et de pratiques condensant tout le drame de la liberté. Le fait que, dans son langage et ses pratiques, la sincérité se trouve en une solide adéquation toute particulière avec la politique donna à ce mouvement d'idées une puissance spécifique qui a été retirée définitivement au marxisme-léninisme ou au républicanisme démocrate, tous deux empêtrés dans de continuelles arguties entre fins et moyens. Une conduite irréductible associée à des convictions non négociables furent les qualités morales garantissant que l'imaginaire populaire puisse accorder sa confiance à des leaders syndicalistes ou à certains individus exemplaires, même lorsque ceux qui se revendiquaient anarchistes ne représentaient qu'une minorité démographique dans le champ politique. Détermination démographique qui explique pourquoi les vies des anarchistes ont été aussi importantes que leurs idées. Chaque vie était la preuve qu'une portion de liberté existait sur Terre.
Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignets et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. La plupart fils de rien, ou bien fils de si peu, on ne les voit jamais que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts 110 fois, pour que dalle et pourquoi? Avec l'amour au poing, sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue. Ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Qu'il y en a pas sur 100 et pourtant ils existent. Et qu'ils se tiennent bien, bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes.